RCF.
Quatrième volet d'une série consacrée à la joie en compagnie du philosophe Martin Stephens, auteur d'un petit traité de la joie paru chez Salvator. Martin Stephens, nous avons vu avec vous que on pouvait consentir ou non à la vie, mais que consentir nous aidait à être heureux. Et nous évoquions la gravité, parce que vous disiez qu'il n'y a pas de vraie joie sans douleur. Alors j'aimerais qu'on revienne là-dessus, parce que c'est quand même un paradoxe, et on le retrouve dans le christianisme. Joie, souffrance, c'est en donnant qu'on se trouve, il y a une sorte d'arrachement là, chez l'homme, mais qui le rend heureux. Alors j'aimerais qu'on revienne là-dessus.
De toute façon, s'il s'agit d'être heureux, on ne peut pas esquiver le réel. Si on commence à faire le tri dans le réel en disant « être heureux, ça va consister à faire l'impasse sur telle ou telle dimension de la vie humaine, maladie, mort, etc. », eh bien, notre bonheur, on voit bien qu'il est un peu forcé. Et je crois que la religion chrétienne, on lui a beaucoup reproché d'ailleurs, a ce culot extraordinaire de nous dire que Dieu, en mettant ses pas dans ce douloureux et fragile de l'homme, sanctifie toute chose. Et toute chose, c'est-à-dire que il n'y a pas l'accent mis plus sur la douleur que sur autre chose, mais il s'agit d'ouvrir les bras et de les ouvrir assez grands pour accueillir tout le réel. Et pour avoir, et c'est peut-être ça l'espérance, à distinguer de l'espoir, pour avoir un œil qui nous permet de voir ce qui se donne sur le lieu même de ce qui nous est enlevé.
Quelle est la différence justement entre espoir et espérance ?
Bien, l'espoir fonctionne avec le désespoir. On se fait de grandes idées et souvent le réel ne correspond pas tout à fait à ces idées. Le réel nous déçoit. Voilà, on se fait des grandes idées et finalement la chose ne correspond pas tout à fait à cette idée qu'on s'était faite. Le réel n'est pas aussi sage que l'image qu'on se fait de lui. L'espérance, c'est tout autre chose. L'espérance, c'est voir ce qui se donne toujours et encore. C'est ce regard qui permet de voir, par exemple, dans le livre, je prends cette expression connue pour lui faire dire autre chose, on dit souvent un malheur n'arrive jamais seul, sous-entendu c'est la loi des séries. Moi je dis un malheur n'arrive jamais seul puisque si l'on y regarde bien, il se donne dans ce malheur et à même l'épreuve assez d'intelligence pour en tirer le son, assez de force pour pouvoir l'affronter. Et au fond, voilà, l'espérance, c'est croire que dans le malheur qu'il me demande de vivre, et quelle que soit ma première impulsion, qui est souvent de dire non, eh bien, je vais pouvoir tracer un chemin.
Alors, il y a ce malheur subi, il y a ces accidents qui nous arrivent, il y a ces êtres chers qui nous sont retirés, mais il y a aussi le fait de tout simplement de vivre. Vivre, c'est souffrir, puisque on disait que ça n'est pas rien d'accepter, de consentir à être incarné, d'avoir un corps. Il y a déjà là une souffrance.
Ah oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il faut, pour chaque chose, remettre à l'endroit. Remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire que cet être cher que je pleure parce que, par exemple, la maladie l'a emporté, eh bien, mes larmes sont sans doute amères, mais si je remonte à l'origine de ces larmes, c'est bel et bien l'amour qui les fait couler. C'est parce que j'ai aimé cet être que je pleure son absence. Tant et si bien que ce qui est premier, ce n'est pas la perte, mais le don. Pour perdre, il faut d'abord recevoir. Et ce travail-là, on peut le faire pour toute chose. C'est-à-dire que, oui, pour avoir mal, même après s'être cogné contre un tabouret, une chaise, pour avoir mal, il faut être sensible. Et que vaut-il mieux, n'avoir pas la sensibilité charnelle ou l'avoir ? Chacun reconnaîtra qu'il vaut mieux être un être humain qu'une plante ou qu'une chaise. Donc tout ce qui nous arrive de douloureux fait fond sur quelque chose auquel nous n'avons pas envie de renoncer en réalité.
Et qu'est-ce que le Christ nous enseigne sur cette souffrance que nous rencontrons tous ? Vous avez dit qu'il accepte de mettre ses pas dans les nôtres. Qu'est-ce qu'il a à nous enseigner ?
Eh bien, faire en sorte que notre cœur de pierre soit un cœur de chair. La pierre ne souffre pas. La chair souffre, la chair reçoit les impressions du monde extérieur, reçoit la blessure, bon. Mais c'est ce qu'il nous demande de faire. Il nous dit, devenez comme moi, quelqu'un qui vibre au contact du monde, quelqu'un qui se laisse toucher, et il se laisse même toucher par Saint Thomas à la fin, c'est-à-dire que il y a quelque chose de, oui, d'incarné, de profondément incarné. Devenez des personnes qui acceptent de vous laisser toucher par le réel. Il y a une souffrance plus grande, incontestablement, mais cette souffrance plus grande s'inscrit dans l'économie d'une joie beaucoup plus fondamentale.
Mais là, on parle de la souffrance, donc inhérente à chaque vie. On ne va pas rechercher sa souffrance parce qu'on a pu reprocher au christianisme de valoriser extrêmement la souffrance. Donc là, vous parlez de la souffrance que chaque être humain rencontre en étant sensible dans son corps, dans son cœur.
Exactement. Donc le Christ ne nous dit pas chercher le malheur. D'ailleurs, lui-même n'a pas envie. Il doit lutter avant de vivre sa passion. Donc il ne s'agit pas du tout, non, d'avoir cette démarche doloriste, mais il s'agit d'avoir cette démarche d'ouverture, sachant que s'ouvrir, c'est souffrir, ou en tout cas c'est prendre le risque de souffrir.
Martin Stephens, on en arrive donc à ce mystère de la croix quand même, puisque là, effectivement, le Christ doit faire face à une douleur qu'on lui impose, un châtiment terrible. Qu'est-ce que ça peut nous dire à nous ?
Ça peut nous inviter déjà à croire en ce Dieu qui est dépouillé de toutes les images de toute puissance, d'autosuffisance qu'on projette sur lui. Au fond, dans cette divinisation actuelle de l'homme par lui-même, on s'attribue faussement ce qu'on croit être les attributs divins. Voilà, un Dieu qui surplombe le monde du haut de sa toute-puissance. La toute-puissance de Dieu et d'avoir renoncé à la toute-puissance, c'est bel et bien de la puissance, hein, que de pouvoir renoncer à la puissance pour se faire corps, chair et donc substrat, substance qui accueille les coups de la vie, même les coups de la haine que les hommes lui portent. C'est une invitation à voir que Dieu nous aime en nous portant secours, parce que Dieu nous aime effectivement par notre vulnérabilité, qui est aussi le signe que nous vivons pleinement cette vie.
Alors, vous expliquez dans votre livre que tout le mystère du christianisme, mais du Dieu judéo-chrétien, c'est le retrait finalement. Le retrait du Père pour laisser passer le Fils, le retrait du Fils pour laisser passer l'Esprit. Enfin, tout le monde se retire pour laisser l'autre exister.
Oui, c'est ça, mais c'est un retrait qui n'est pas une fin en lui-même. Hein. C'est un retrait qui est la même chose, pour le dire très très simplement, que ce qui est en train de se passer pour nos auditeurs. C'est-à-dire qu'en nous écoutant, il cesse de parler. J'aime beaucoup ce qui se passe dans le phénomène de l'écoute. Quand on écoute un ami, eh bien, au fond, on cesse d'exister. On est uniquement l'espace pour que sa parole puisse se déployer. D'ailleurs, quand on se rappelle à soi pour dire « tiens, je vais plutôt me tenir comme ça pour lui montrer que j'écoute, je vais me gratter le menton », dès lors qu'on se rappelle à soi, eh bien, on cesse de l'écouter. Tant et si bien que, oui, se retirer a en vue de permettre, de donner à l'autre d'exister.
Mais c'est ce qui est difficile pour l'homme qui veut prendre toute la place, généralement.
Oui, tout à fait. Il nous faut apprendre à mourir. Il nous faut mourir pour donner à l'autre d'exister, et sachant que cette mort est la plus grande vie. Il n'y a pas de vie plus forte et plus intense que celle qui se joue dans les moments d'amitié, ou celle qui se joue, on écoutait un morceau de musique admirable à l'instant.
Schubert.
Voilà, c'est quand on écoute de la musique, on consent à laisser passer par nous un peu de beauté. Voilà. Et on voit bien que on n'est pas dans l'activité, on n'est pas dans la pure passivité, parce que quelque chose passe par nous, donc il y a quelque chose qui se crée par nous. Mais en tout cas, on est dans une volonté de ne plus avoir d'emprise sur les choses, afin que ces choses puissent rendre leur saveur.
Avant de mourir sur la croix, le Christ va prier pour ses disciples, et puis surtout, il va leur laver les pieds. Et le Christ a des paroles sur la joie à ce moment-là. Heureux êtes-vous si vous faites ceci en se souvenant de mes gestes à moi. Donc encore l'idée du don par amour. Alors on peut parler d'un don par amour.
Oui, d'un don par amour et une invitation à l'imiter.
Mais qu'est-ce que c'est que l'amour ? Parce qu'on ne lave pas les pieds que de nos amis. Ou alors ce serait trop facile. Jésus d'ailleurs dit, je vous demande pas simplement d'aimer vos amis, mais vos ennemis.
Oui, alors c'est qu'est-ce que c'est que l'amour? En tout cas, il lave les pieds, parce qu'on pourrait laver des parties plus nobles que les pieds. On pourrait laver les mains, on pourrait laver le visage, on pourrait même laver les cheveux. Quand même, laver les pieds de ses amis, on imagine de nos jours en plus avec chaussettes et chaussures. On peut se dire que ça n'est pas une expérience qui doit être tout à fait facile, une expérience un peu odorante. En tout cas, ça veut dire que l'amour a à accueillir l'autre jusque-là pour le remettre debout. Après, aimer ses ennemis, c'est encore une affaire de consentement. Déjà, ce que je mentionne dans mon dernier livre, aimer ses ennemis, ça suppose d'en avoir. C'est-à-dire, c'est pas un amour qui se donne facilement. Je crois que Jésus a aussi accepté de n'être pas aimé. Donc voilà, aimer ses ennemis, ça veut pas dire ne plus en avoir, c'est-à-dire aimer même ceux qui nous rejettent. Et je crois que, de toute façon, comme le dit bien Jésus, finalement, s'il s'agit d'aimer uniquement ce qui est aimable, c'est trop facile. Par contre, inventer les conditions de l'amour là où ces conditions sont à créer, c'est ça qui est digne d'être vécu.
Mais c'est ce qui est crucifiant aussi souvent.
Ah oui, tout à fait, parce que finalement, quand on prend le risque de ce que j'appelle les bras ouverts, quand on accepte d'avoir les bras cloués sur la croix, c'est-à-dire quand on accepte de s'ouvrir au risque de souffrir, eh bien, on va vivre cette expérience très douloureuse de remarquer que l'amour n'est pas aimé. Et c'est une expérience douloureuse. On aimerait que l'amour soit aimé, mais c'est l'expérience la plus passionnante qui soit, parce que sinon, au fond, il s'agit uniquement de voir la façon dont les autres nous aiment, et ça, c'est pas très intéressant.
Martin Stephens, nous refermerons demain ces entretiens.